Auditrices et auditeurs des médias libres, bonjour. Nous vous proposons dans ce reportage du Lot en action de vous emmener à côté d'Agen, pas très loin du Lot, dans une petite commune qui s'appelle Sainte-Colombe en Briouin, où le 13 décembre dernier a été lancée une nouvelle ZAD, zone à défendre. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que les profits distribués aux actionnaires des multinationales, ni les chiffres du chômage qui sont en constante augmentation. Depuis quelque temps, ces zones à défendre fleurissent un peu partout. Alors qu'est-ce qui se passe à Agen pour qu'on ait une nouvelle zone à défendre? Nous avions relayé l'appel à la création de cette ZAD et nous nous sommes rendus avec François de Décibel FM sur place pour essayer de comprendre quels sont les enjeux et les gens, les forces en présence. Alors cette petite commune de Sainte-Colombe-Montbruyat, je vous le disais, est située à une petite dizaine de kilomètres d'Agen. Il y a également un projet de la ligne grande vitesse qui doit relier donc Toulouse à Bordeaux. La future gare LGV ne pourra pas passer dans le centre d'Agen et donc c'est la création d'une nouvelle gare. Et la communauté de communes d'Agen, qui compte près de 110 000 habitants, prévoit autour de cette gare évidemment une zone d'activité commerciale où on verra fleurir des hôtels, des magasins en nombre, vous savez, ces grands temples de la consommation qui sont en connexion directe avec la Chine. Des parkings, des ronds-points, des routes, des échangeurs. Bref, tout ça pris sur un fond de vallée, donc des terres agricoles évidemment, qui plus est alluvionnaires, donc qui sont extrêmement fertiles et qui devraient par essence servir à nourrir les humains qui entourent ou qui sont tout autour. Alors, 600 hectares, ça fait beaucoup, surtout que des zones commerciales autour d'Agen, il y en a beaucoup. Moi, ça faisait peut-être une petite dizaine d'années que je ne m'étais pas rendu dans la région d'Agen et j'étais surpris par la création de toutes ces zones commerciales qui ont fleuri un petit peu partout autour de la ville et notamment, je pense à une grosse zone commerciale qui s'appelle l'Agropole d'Estillac, qui est tout proche des lieux de Sainte-Colombe, et sur laquelle, bizarrement, on s'aperçoit que des terres ont été artificialisées, mais que tous les emplacements ne sont pas pris, il reste encore beaucoup de place. Alors pourquoi en créer une nouvelle? C'est la question que se pose un des agriculteurs qui est concerné par l'expropriation de ces 600 hectares, qui travaille ces terres avec son fils depuis de nombreuses années, plusieurs générations. Donc ce ne sont pas des gros agriculteurs, ils ont une trentaine d'hectares, mais ils s'opposent à ce projet fortement. Ils ont entamé toutes les procédures qui étaient à leur disposition pour arrêter le projet. En tout cas, ils demandent un moratoire de ce projet, ils demandent à ce qu'on ait un vrai débat qui soit ouvert, public, concernant l'aménagement du territoire et une certaine cohérence. Ils se sont heurtés jusqu'alors à un refus et en désespoir de cause. Les expropriations ne sont pas encore actives, elles devraient intervenir courant 2015, début 2016. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire ils ont suivi bien évidemment ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes et au Testé et ils ont décidé de lancer un appel. Alors là, on est dans un cas un petit peu particulier puisque Joseph et son fils, Joseph Bonotto donc, et son fils, l'agriculteur, sont encore propriétaires des terres et ils lancent un appel pour que des gens viennent occuper leurs terres, cette zone à défendre. Ils sont encore propriétaires, donc quand nous sommes arrivés sur, ce qui est une situation un peu singulière, parce que quand nous sommes arrivés sur les lieux avec François le 13 au matin, il y avait déjà une forte présence policière, impressionnante même, mais les gendarmes ne pouvaient pas pénétrer sur les lieux parce qu'on est sur des terres privées avec le consentement des propriétaires. Situation donc un petit peu singulière. D'ailleurs, à titre anecdotique, on a vu les renseignements généraux qui trépignaient et qui ne pouvaient pas rentrer sur les terres, qui se sont garés à 200-300 mètres en bordure des champs et qui étaient équipés d'appareils photo avec des téléobjectifs longs comme un jour sans pain et qui mitraillaient évidemment tous les gens qui étaient présents. Alors, donc la ZAD a été créée ce jour du 13 décembre. Il y avait pas grand monde, mais il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui étaient venues. Alors, ce qui nous a surpris, c'était d'abord de voir autant de monde, parce qu'une cinquantaine de personnes en ce début décembre avec un temps pourri, c'était déjà une belle réussite. Et d'autre part, de voir la diversité qui était affichée. C'est-à-dire que dans les médias, on vous parlera forcément de talibans écolos, de jeunes avec des cheveux longs, des camions, des chiens. Alors il y en avait évidemment, mais pas seulement. Il y avait une grande diversité, des associations qui étaient déjà là, la Confédération paysanne, le MODEF, tout ça du 47. Alternative Libertaire, et puis une association qui s'appelle Filière Paysanne, qui a soutenu le projet de ZAD, de création de ZAD depuis le début, et puis des propos qui ont été riches, échangés juste avant la déclaration officielle de la ZAD. Et alors là, j'ai juste envie de vous lire une petite déclaration qui s'est faite juste avant la déclaration officielle, donc là j'ouvre les guillemets. « Nous n'avons pas de planète B, il ne faut pas la laisser gâter. » ZAD partout, c'est un vrai projet alternatif que nous devons proposer. Cultiver ces terres avec du maraîchage, en permaculture, agroforesterie, parce que ces terres ont vocation à nous nourrir. Nous avons besoin de compétences, d'aide en moyens humains, mais également de semences. Alors, on va vous laisser écouter la déclaration officielle de la ZAD, qui a été faite par Joseph Bonotto lui-même, donc le propriétaire, ainsi que Jean-Christophe Robert, qui est l'animateur de cette association dont je vous parlais, qui s'appelle Filière Paysanne, et qui est basée à Marseille.
Se répéter 10 fois parce que on va pas y arriver les gens.
Oh, Bernard.
Bon. Alors. Voilà, oui. Non, il va pas. Voilà, c'est pas le moment. Si on est là.
Intérieur, on sort.
Chut. Si on est là aujourd'hui, c'est un petit peu. À mon appel, parce que je me sentais un peu esselé et perdu face à cette grosse machine que veut nous imposer au tout début le maire de Sainte-Colombe, mais tout d'abord le SCOT, et puis ça a été repris par l'agglomération d'Agen. Donc je me sentais un peu perdu au niveau de cette grosse machine, et j'ai demandé à certaines personnes, j'ai lancé un appel pour venir me soutenir et surtout venir voir comment on pouvait essayer de mettre un frein à cette TAG ou ZAC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce qu'on change d'initiale tous les quarts d'heure, mais enfin aujourd'hui il semblerait que ce soit la TAG. Donc j'ai demandé à certaines personnes de trouver un moyen de venir trouver une solution pour essayer d'arrêter ce massacre. Et donc plusieurs personnes se sont proposées, notamment des personnes qu'on appelle entre parenthèses des zadistes, mais qui ont un groupe et qui ont une idée bien précise, et d'autre part Filière Paysanne en présence de Jean-Christophe qui arrive de Marseille, donc voilà, c'est pas rien. Et nous avons tout à l'heure, il y a 5 minutes, lancé un appel à... On pourrait appeler ça toutes les personnes associées qui voudraient s'engager sur notre, entre parenthèses, charte qu'on est en train de mettre en place. Donc je ne les cite pas, ils se présenteront eux-mêmes et, ou quand ils auront pris une décision, parce que ce n'est pas facile de prendre une décision comme ça à la légère. Donc je vais laisser la parole d'une part à Alex qui va nous faire un petit peu une introduction et nous présenter ce pourquoi on est là aujourd'hui.
Un agriculteur et sa famille nous invitent sur ces terres. Ils nous invitent à lui venir en aide. Ces terres et l'œuvre de sa vie sont menacées d'être détruites pour y couler du béton. Nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à l'appel de la terre. Notre objectif commun est de préserver l'hospitalité terrestre. Notre objectif est aussi de dénoncer le rôle d'élus complaisants qui imposent une vision passéiste de la démocratie. La ZAD s'engage et persiste pour une agriculture paysanne contre la spéculation sur les terres foncières et l'artificialisation des paysages. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour préserver l'avenir de l'humanité et celui de toutes les formes de vie.
Maintenant, on va demander à Jean-Christophe de nous lire, enfin, ou de nous présenter un petit peu aussi la suite qu'on va donner à ce mouvement.
Alors donc ça, c'est effectivement les quelques mots que j'ai rédigés qui correspondent en fait à l'appel que Filière Paysanne souhaite soutenir pleinement et sur lequel on propose de faire un communiqué dès lundi, un communiqué de presse. Donc nous appelons les différents acteurs du territoire de la Genêt à soutenir l'occupation légale, collective et pacifique des terres de Joseph Bonotto, ici présent, pour demander l'annulation du projet donc, de la TAG, dont tu as détaillé le nom, je ne connais pas l'acronyme, mais voilà, c'est dit. Nous proposons la mise en place d'un projet alternatif. Nous souhaitons construire ensemble un avenir pour la plaine d'Agen et pour les générations futures. Et nous déclarons la création de la ZAD à Sainte-Colombe ce samedi 13 décembre 2014.
Ouverte.
Voilà, ouverte à toutes et tous.
Bravo!
Ouais. Juste après cette déclaration officielle de Joseph Bonotto et de Jean-Christophe Robert, qui a donc constitué l'acte de naissance officiel de la ZAD, différentes interventions de citoyens, d'élus, pêle-mêle, et dont certaines sont vraiment très intéressantes.
Tout à l'heure, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Il y a déjà une piste qui a été évoquée donc, par Denis, que je ne vois plus, mais qui était parmi nous, donc qui est député du département, qui est déjà de valoriser tout ce qui existe aujourd'hui actuellement comme espace d'accueil pour les entreprises dans le cadre donc, des zones industrielles qui sont déjà en place. Il faut savoir qu'il y a déjà des locaux qui sont vides, qu'il y a des espaces aussi dans des zones qui ont déjà été artificialisées qui sont vides. Donc pourquoi effectivement artificialiser des nouvelles zones alors qu'il y en a d'autres qui ne servent à rien et qui sont disponibles? Ensuite, le deuxième axe, pourquoi est-ce qu'on crée forcément et on développe l'activité sous forme de zones qui sont à l'extérieur des centres alors que dans les centres, il y a peut-être besoin aussi de redévelopper de l'emploi commercial, artisanal. Il faut savoir que quand, par exemple, une structure style grande distribution se crée pour un emploi créé dans la grande distribution. Généralement, il y en a 4 qui disparaissent dans les commerces de proximité. Ça, c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France qui le dit. Donc, ce sont des informations officielles. Donc, pourquoi effectivement toujours mettre à l'extérieur et obliger les gens à prendre leur bagnole pour pouvoir aller bosser et balancer des particules fines alors qu'on peut peut-être redynamiser les centres-villes? Et puis enfin, troisième axe qui est super important, on a ici de la terre qui est une terre nourricière. Donc, pourquoi la bétonner alors qu'on peut développer de l'activité, c'est-à-dire installer des gens pour travailler la terre, nourrir les gens, la population du coin, et notamment nourrir la restauration scolaire, puisque nos gamins ont aussi besoin de manger autre chose, peut-être que ce que propose la Sodexo. Voilà. Trois axes possibles.
Et ça peut faire aussi des jardins partagés et des légumes à prix libre pour les gens du coin qui n'ont pas spécialement les moyens. Et dans la conjoncture actuelle, des tomates, des pommes de terre à pas cher ou à rien du tout, ça peut être important. Le but aussi, c'est de redonner aux Agenais le fait de pouvoir profiter de cette terre, ça appartient à l'agglomération d'Agen, autant que ce soit les Agenais et les gens du coin qui en profitent, et pas trois personnes qui vont prendre beaucoup d'argent Le but, c'est que ça serve à tout le monde du coin et qu'on remette la terre au centre des discussions et pas le béton. Parce que demain, qu'est-ce qu'on va manger, donner à nos enfants? Du béton ou du légume? Ou des légumes? C'est les questions qu'on peut se poser aujourd'hui.
Moi, j'aimerais... Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Ce que j'aimerais, pour illustrer ce qui vient d'être dit, il faut savoir que pas loin d'ici, il existe une zone, d'ailleurs une zone assez emblématique, qui est l'Agropole, qui est citée comme une réussite dans le territoire. Et il faut savoir que les 70 hectares que constitue cette zone, on a mis quand même une trentaine d'années pour la constituer, pour l'occuper. Donc c'est pour donner une idée de ce que l'on peut, enfin de la vitesse, disons, de développement d'une zone comme la Genêt, le temps qu'il a fallu sur l'Agropole. Alors c'est pour comparer ça au projet actuel où là on est sur 200 hectares que l'on veut mobiliser avec des projets qui semblent décalés par rapport à la réalité, parce que malheureusement, l'activité économique, on n'est pas au mieux actuellement dans notre pays, et que même si on peut avoir la volonté, et nous l'avons, la volonté justement de développer la Genêt, je pense que cet exemple-là de l'Agropole nous indique, nous donne déjà une façon de voir les choses de façon beaucoup plus réaliste qui peut permettre justement de préserver les meilleures terres que l'on peut avoir dans la zone, puisqu'ici nous sommes en première terrasse de Garonne. C'est des terres de première catégorie qui en plus sont facilement irrigables. Donc voilà pourquoi vouloir mobiliser autant de terres avec des prévisions d'emploi qui sont démesurées par rapport à la réalité que l'on connaît bien. Et que, alors qu'il y a moyen, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a moyen dans le territoire d'optimiser les zones existantes, ou s'il fallait réserver des hectares nouvelles, il y a moyen de le faire de façon beaucoup plus rapprochée des zones actuelles et non pas de s'étaler comme on le fait à travers ce projet-là. Parce qu'il faut bien savoir qu'ici, il y a un projet de 200 hectares, mais entre la zone ici et précisément l'Agropole qui se trouve à 4 ou 5 km, ça veut dire qu'entre les deux, très rapidement, tout ce territoire-là va être exclu de l'agriculture. Voilà.
Quel sera le rôle de l'Agropole des Verts dans cette
occupation? Il faut bien savoir que depuis le début de ce projet-là, nous sommes mobilisés là-dessus, justement, pour empêcher ce projet tel qu'il est avancé, que nous avons formulé à travers l'enquête d'utilité publique, à travers les différentes réunions qu'il y a eu, que je n'ose pas appeler réunion de concertation, parce que nous avons donc dès le début proposé une autre façon de voir les choses on ne s'est jamais opposé seulement à la zone, on a toujours formulé des propositions. Le problème, c'est que là comme ailleurs, l'enquête d'utilité publique et les réunions de concertation n'ont jamais pris en compte ces contre-propositions. Elles n'ont jamais été étudiées de façon égale par rapport au projet initial. C'est là où ça ne va pas. C'est là où, effectivement, ici comme ailleurs, les procédures d'enquête d'utilité publique ne sont pas correctes. Et quand... la ministre Ségolène Royal dit qu'il faut les revoir. On est complètement d'accord avec elle là-dessus. Il faut absolument, effectivement, revoir la façon dont ça se passe. Parce que les enquêtes d'utilité publique actuellement, ce sont des formalités qui donnent raison obligatoirement à celui qui présente le projet. Donc non, ça ne peut plus se passer comme ça. C'est pas plus possible.
Il faut savoir qu'au niveau de ces enquêtes publiques, quand a eu lieu tout le déroulement pour l'enquête publique, autant du PLU que pour la zone, nous avons alerté la préfecture par deux fois. Nous avons été, et donc on a des courriers là-dessus, nous avons été reçus avec l'ancien préfet, nous avons été reçus par le secrétaire qui est maintenant parti, je ne sais plus son nom, et il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique dans le processus. Et il avait uniquement fait un courrier à l'agglo qui lui est le maître d'œuvre pour lui demander de rectifier le tir. bien évidemment, le tir n'a pas été rectifié. Et on maintient qu'aujourd'hui, on demande encore un rendez-vous par plusieurs biais, notamment celui de Bernard, celui de Christian et autres, et que le préfet aujourd'hui fait une fin de non-recevoir en ce qui me concerne. Donc on a vraiment du mal à comprendre, j'ai vraiment du mal à comprendre son refus, voilà, parce qu'en définitive, il a signé quelque chose, mais peut-être qu'il n'était pas au courant de tout, mais il ne peut pas nous dire ça, puisqu'il y a quand même des traces qui ont été écrites pour lui dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond. Donc voilà, on se pose des questions sur le déroulement et pourquoi l'État, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ne veut toujours pas concerter, parce qu'en définitive, la préfecture, c'est l'État. Voilà.
Est-ce que vous avez reçu votre lettre d'expropriation ? Est-ce que vous avez déjà...
Alors, écoutez, j'ai reçu la lettre de parcellaire. Le parcellaire, c'est comme quoi je dispose bien de ces parcelles-là. Et ensuite, j'ai reçu une proposition de rachat. Alors, il y a eu, soi-disant, encore une fois, des concertations, ou on a discuté une ou deux fois, mais bon, ça n'aboutit à rien, si ce n'est que... Si ce n'est qu'ils peuvent écrire qu'effectivement, nous avons discuté sur quelques propositions, mais... qui ne me conviennent pas du tout. Et aujourd'hui, on en est arrivé à leur faire comprendre concrètement ce que l'on veut.
Mais les discussions, vous ne les acceptez pas parce que les tarifs ne sont pas assez hauts pour vous ?
Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'a écrit un certain monsieur, avec un grand nez comme ça, mais ça, je le lui retourne. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'est de préserver l'unité foncière de ceci. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'on veut me faire une route là, vous voyez là ? Après l'herbe, on veut me faire une route. Moi, tous mes bâtiments agricoles, ils ont une fonction. Si j'ai un puits pour arroser, j'ai une fonction. Donc tout ce que j'ai demandé, c'est pour aller, pour comprendre leur façon, j'ai demandé entre la rocade qu'ils veulent faire là-bas et le bout de la zone de l'autre côté, du côté nord, je demandais de garder une unité foncière qui va des limites, vous les voyez là, où c'est qu'elle est sapinette, qui préserve mon puits. On avait environ 6 hectares de terre à préserver sur cette unité foncière. Et ensuite, venez en échange des terrains que j'ai de l'autre côté. Voilà, on faisait une compensation. Bien évidemment, refus, on ne peut pas. Enfin bon, c'est leur discours à eux. Et ensuite, ils m'ont proposé 2 hectares de terre qui sont de l'autre côté de l'autoroute pour soi-disant des terrains à bâtir. Mais bon, sûrement que mon architecte doit être un imbécile. Les siens, les leurs sont sûrement des super architectes qui arrivent à faire une rentabilité sur ces terrains-là. Moi, je ne suis pas arrivé. Donc forcément, j'ai découlé l'offre parce que je ne suis pas là pour manger de l'argent. Voilà. Et puis...
Est-ce que les personnes qui veulent avoir de l'information pour la suite veulent laisser leur contact ici ? Donc je fais circuler ça, si
okay.
Tu permets.
Voilà.
Et du coup, n'hésitez pas à vous inscrire.
D'autres terres dans le cadre d'un dédommagement, enfin de continuité.
C'était, disons, une compensation par rapport à quelque chose qu'eux estimaient normal, mais je devais leur laisser ma terre là, voilà. Là, vous voyez ? Parce que apparemment, aujourd'hui, ils ont décrété que cette route sera coupée. Je ne pourrai plus rejoindre Sainte-Colombe. Et la route va passer là, une petite route. Alors une ici, une à 200 mètres. Non, enfin,
il n'y aura rien du tout.
Voilà. Donc, non seulement je trouve que c'est malhonnête de leur part de dire qu'ils m'ont proposé quelque chose que j'ai refusé.
Mais si les promoteurs du projet veulent font des contre-propositions à leur première proposition, vous seriez susceptible de les accepter.
Aujourd'hui la proposition, c'est celle qu'on est en train d'élaborer ici. La proposition, c'est celle qu'on est en train d'élaborer ici.
Donc ça veut dire que vous coupez court,
S'ils veulent négocier, ils viendront autour de la table avec tous les participants à cette ZAD et nous discuterons tous ensemble autour de la ZAD.
Bravo.
Voilà.
Mais votre
Bravo.
Projet à et de vous, toute façon, sur vos terres, oui. C'est de continuer l'exploitation agricole.
Moi aujourd'hui,
voilà.
Je veux que la terre reste terre. D'une façon ou d'une autre, que ce soit moi ou d'autres personnes qui l'exploitent, elle doit rester terre. Voilà. Et on veut mettre un terme à cette tag.
Oui, puis encore faut-il utiliser ce qui est déjà bétonné.
Et puis il faut garder une cohérence de travail pour l'agriculteur. C'est normal qu'il ait un îlot de travail et non pas lui saucissonner son espace de travail. Ce qui a été proposé est totalement inacceptable. Nous, à la Confédération Paysanne, nous soutenons le projet parce qu'il y a aussi d'autres alternatives. On parlait de projets alternatifs. Maintenant, cette réserve qui était destinée à faire du bétonnage et de l'industrialisation peut rester une réserve foncière et on peut installer des jeunes sur ce territoire. On a des difficultés dans le département, il y a des concurrences sur les terres. La Genêt maintenant peut bénéficier d'un espace suffisamment grand pour accueillir différents projets agricoles. Donc l'alternative, elle est aussi dans le débouché agricole, dans la restitution des terres à l'agriculture.
Alors justement, ce sera réellement public.
Vous avez combien d'hectares, vous, en votre nom propre ?
Sur la zone, 12, environ.
Et que disent les autres agriculteurs ?
Mais je ne rentre pas dans ces considérations. Aujourd'hui, j'ai... Voilà, j'ai... Stop. On parle... Les gens qui veulent venir au sein de cette nouvelle discussion de ce collectif seront les bienvenus. Voilà. Et toute personne qui ne voudront pas rentrer dans ce collectif, ben, ils auront qu'à réfléchir et puis voilà.
Est-ce que vous parlez au nom de toute l'association
Je parle au nom aujourd'hui de Joseph Bonotto. Mm-hmm. Et si les gens de l'association qui existent toujours, parce qu'il faut savoir que tout n'est pas vendu, et sont d'accord sur ce qu'on est en train d'élaborer, ben, ils seront toujours les bienvenus, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc c'est une initiative personnelle.
C'est une, je vous l'ai dit tout à l'heure, en introduction, c'est une demande d'une personne qui est sur le point d'être expropriée et qui se sentait seule et demande de l'aide autour de lui. Voilà. Et l'aide est arrivée aujourd'hui.
Sur ce point, on ne peut pas parler d'une initiative personnelle, dans la mesure où ça a été déjà l'appel pour la rencontre d'aujourd'hui a été lancé à la fois par Joseph et par moi-même en tant que porte-parole de filière paysanne. Donc on est déjà deux structures, en fait, deux associations.
Et la ZAD. Donc, moi aussi j'ai appelé à la ZAD.
Voilà. Donc déjà l'appel a été lancé effectivement par déjà deux acteurs. Et ensuite il y a eu un relais qui a été quand même très large. Et Fred a été un des acteurs, mais il y en a de nombreux. Donc du coup, si aujourd'hui on est aussi nombreux, c'est que vraiment on est collectivement conscient qu'ici il se passe quelque chose d'important et qu'il faut qu'on se mobilise. Donc bien sûr qu'au départ ça part de l'appel d'un homme. Effectivement, au départ, c'est Joseph qui a porté beaucoup sur ses épaules par rapport à cette lutte. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout une lutte qui est sur les épaules de Joseph, c'est vraiment les épaules collectives qui sont là. Peut-être un point aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui mobilise fortement les gens qui sont ici. En tout cas, personnellement, c'est aussi une des choses pour lesquelles j'ai bougé de Marseille pour porter la parole de filière paysanne. C'est le fait, il faut bien être conscient que si d'un côté, on construit des barrages surdimensionnés en plus pour pouvoir irriguer des terres qui sont plutôt destinées à une agriculture pluviale à la base, et que de l'autre côté on va bétonner des terres qui elles sont irriguées naturellement parce qu'on est sur la nappe, là on a vraiment une nappe de première qualité, on est vraiment sur un modèle d'aménagement qui marche sur la tête. On part clairement au tas, c'est-à-dire on va à l'encontre d'une pénurie alimentaire qui probablement sera plus proche que ce qu'on le pense. Donc il y a vraiment une urgence absolue, c'est une question de sécurité alimentaire collective, que de préserver les terres aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas ce qu'on va manger. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs, je fais un petit peu de com, tiens, au passage, pour vous dire que Filière Paysanne, qui s'est beaucoup battue là-dessus, est en train d'écrire un bouquin. Ce bouquin s'appellera « Qui sème le béton aura bientôt la dalle ». Voilà, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et qui met en avant le fait qu'il existe des solutions. Il existe des solutions concrètes, notamment le Québec, depuis 36 ans, avec la loi du zonage agricole, a mis en place ce qu'on appelle un zonage agricole qui définit les terres qu'il préserve, qu'il sanctuarise. Et depuis, effectivement, il y a eu des évolutions, mais qui sont contrôlées. Les mairies, les communes ne font pas ce qu'elles veulent. Elles sont sous le contrôle, quelque part, d'une commission indépendante. En France, on a mis en place des commissions indépendantes, enfin malheureusement, qui n'ont pas de pouvoir décisionnel, qu'on appelle les commissions départementales de consommation des espaces agricoles, qui sont en train de se transformer avec la nouvelle loi, qui ont un nouveau nom, mais à la limite, qu'importe le flacon. Et il faut savoir que dans les DOM, parce qu'il y a eu les émeutes, donc les émeutes de l'outre-mer en 2009, ils ont réussi à ce que ces commissions-là aient un avis décisionnel et puissent dire non aux communes, parce qu'il y avait eu une telle artificialisation du territoire que c'était une urgence. Donc en métropole, malheureusement, on n'arrive pas à avoir cet avis décisionnel. On s'est battu avec beaucoup, notamment de députés de différents bords, pour avoir cet avis décisionnel-là. On ne l'a pas eu parce que les lobbies du béton et les lobbies de l'immobilier
et les élus locaux, qui sont cumulards pour beaucoup au niveau donc, du Parlement, n'ont pas voulu céder de terrain. Donc on a toujours effectivement cet avis qui est purement consultatif en métropole. Il faut que ça devienne un avis décisionnel. Ça marche dans les DOM, ça fonctionne. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à artificialiser le territoire? Parce qu'il y a une volonté politique de la part du gouvernement et du Parlement de ne pas avancer. C'est donc nous, peuple souverain, qui devons nous mobiliser pour effectivement faire valoir nos droits et ceux des générations futures.
Voilà, bravo.
Alors que le gouvernement justement avait envisagé très sérieusement de lui de donner à cette commission un pouvoir décisionnel et qu'il a reculé justement face au
lobby du BSO. Alors pour revenir à la question de Stéphane tout à l'heure, si on était pour la concertation, aujourd'hui, s'ils veulent revenir sur les discussions, on a des projets alternatifs à leur proposer et des solutions pour eux aussi. Il faut juste qu'ils reviennent un petit peu en arrière sur ce qui avait été discuté et proposé par certaines personnes et corps associés, et à partir de là, on pourrait trouver un accord.
Quel genre ? Quel genre
de... Ben écoutez, ça avait été discuté par le Conseil Général et autres, notamment...
Rappelez-nous.
Ben il y avait eu des propositions qui avaient été avancées par le Conseil Général, qui avait travaillé sur ces zones, qui étaient possibles d'agrandir, non loin de l'agropole, qui ne nécessitaient aucune grosse infrastructure. Les parcelles avaient été trouvées, détaillées. Seulement, ça ne devait pas convenir à certains décideurs et ils n'ont pas voulu tenir compte de ce projet. Et pour, je ne sais pas pourquoi, en tous les cas, nous, s'ils veulent discuter sur ces bases-là, on pourra toujours se mettre autour de la table pour leur faire comprendre qu'il y a, à ce moment-là, il y a quelque chose de constructif et qui coûtait beaucoup moins cher à la société pour arriver exactement au même résultat.
Et de toute façon, ces terres-là... sont voués à profiter aux Agenais. Et donc, au final, ce sera pour que les Agenais puissent avoir des légumes à pas cher ou des jardins partagés. Mais et je pense que c'est une chose importante aussi.
Voilà. Mais par rapport aux propositions qui ont été faites et qui avaient été, à un moment donné, le fruit de nos propositions et d'une réflexion du Conseil général, ce qu'on aimerait bien, justement, c'est que le Conseil général ait le courage de défendre cette position-là.
Exactement aussi. Voilà. Je voudrais donner la parole à... Vas-y, Tonnerre.
Non, voilà, je suis M. Dufour Gilbert. Je représente le MODEF. Le MODEF est un syndicat agricole, mouvement de défense des exploitations familiales. Dans ce qui concerne M. Bonotto, il est en plein dedans, vu qu'il a une exploitation limitée à 21 hectares, 12 hectares, 15 hectares, tout ça, ça nous concerne, même jusqu'à 50 et 80 hectares, parce qu'aujourd'hui, les surfaces s'agrandissent, mais nous sommes toujours à défendre ces exploitations familiales. Tel est le cas aujourd'hui. Nous associons, bien sûr, à préserver, en connaissant M. Bonotto en plus, à le défendre en ce sens-là, parce que bon, les terres agricoles, eh bien, c'est des terres agricoles, en plus, des bonnes terres agricoles, avec du fond et des terres qui absorbent du légume comme de la céréale, dont tout y pousse. Et dans le département, ces terres-là sont plutôt rares, parce que c'est la vallée de la Garonne, c'est toutes les vallées de différentes rivières. Et ensuite, nous avons des départements où nous n'avons pas de terres agricoles, donc il faut préserver déjà ce qui existe. Nous, le MODEF, bon, eh bien, nous sommes pour défendre justement les agriculteurs, qui sont les nôtres, et le département en même temps. Je suis aussi maire d'une commune rurale, je suis agriculteur moi-même et je sais qu'on est embêté avec les zonages, on est embêté avec le mitage, puisque le mitage aujourd'hui ne doit plus exister. Donc on a des terrains limités pour construire, pour faire évoluer nos petits villages, pour conserver nos écoles. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui on prenne en otage des agriculteurs en disant ici on va faire ça. Et après tout, ces messieurs-là, ils paient des impôts fonciers. L'impôt foncier fait qu'on peut se défendre encore sur notre territoire. Et je crois que c'est une bonne chose de justement pouvoir payer des impôts fonciers, parce que nous sommes maîtres normalement de chez soi. Ça n'est pas le cas. Je vois que ça ne va pas se passer en famille si les pouvoirs publics ne réagissent pas. Et je pense qu'il faut qu'ils pensent encore aux agriculteurs qui restent sur ce département, parce que c'est un département riche en agriculture, un département rural. Je veux bien qu'il y ait des infrastructures qui se fassent, parce qu'il faut aussi, mais il faut aussi les réfléchir, notamment intelligemment. Voilà, je vous remercie.
À partir d'aujourd'hui, combien de personnes restent ici? Ça se déroule
comment? Ça, c'est en train. Aujourd'hui, on a ouvert la ZAD, et donc le nombre de personnes et tout, ça va se décliner dans les jours qui suivent. Voilà. On ne va pas donner de réponse en disant il y en a un, 10 ou 100, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, on a tracé une ligne la ZAD existe. Et à partir de là, on va intelligemment essayer de construire quelque chose. Et le nombre de personnes en a peu d'importance sur ce sujet.
Monsieur Bonotto, comment est-ce qu'on peut vous soutenir au niveau de la ZAD, par exemple, est-ce qu'il faut venir cultiver des trucs avec vous
ou... Écoutez, il y aura très certainement...
Aiguisez vos binettes.
Voilà,
comment on saura la suite, c'est ça, comment on peut concrètement vous aider en fait.
Alex, où c'est qu'il est? Il y a sur un site. Vous allez sur Facebook ZAD d'Agen, il y aura quand même quelques infos.
D'accord.
Le temps peut-être qu'un site se crée, parce que on n'a ni argent ni nous sommes des informaticiens, donc s'il y avait des informaticiens libres, ça serait,
il serait
la bienvenue
en fait,
pour créer un petit site pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, l'appel est lancé.
Et votre sentiment aujourd'hui par rapport à la mobilisation et aux gens qui sont ici, c'est le premier jour aujourd'hui, vous posez la première pierre, il y a du monde autour de vous, quel est votre sentiment?
Je suis plus qu'agréablement surpris. Sur cette mobilisation des gens d'un petit peu partout, et je vois que réellement ça prend forme et que on va pouvoir démontrer à certaines personnes qui nous ont menacés, humiliés, de pouvoir leur dire messieurs, voilà la réponse qu'on vous apporte. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Nous, on a une alternative et c'est celle-là. Voilà.
Je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Moi, je voudrais dire aujourd'hui, monsieur Bersauteur, je voudrais avoir votre attention. Monsieur Bersauteur, je voudrais avoir votre attention, excusez-moi.
Je souhaitais avoir votre attention.
C'est gentil plutôt, non? Voilà. Moi, je voudrais dire que ce qui se passe ici n'est pas simple, mais c'est clair. C'est clair parce que d'un côté, on a une zone avec une DUP hâtivement accordée et que je dirais pseudo-légale, parce qu'on y retrouve toujours du conflit d'intérêts, on y retrouve toujours de la magouille au niveau des plus et des postes, des parcelles, etc. Donc on a ce que j'appellerais moi une ZAE pseudo-légale, et de l'autre côté, des gens qui sont pas dans la légalité, vous allez me dire, mais dans la légitimité. Et je crois que philosophiquement, ça c'est très important, on a d'un côté une pseudo-légalité et de l'autre côté une légitimité. D'un côté, on a un intérêt soi-disant général qui est totalement bafoué et qui n'est pas vraiment un intérêt général. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, c'est-à-dire ce qu'on défend en commun, la terre, l'eau, l'intérêt vraiment de tous. Et je crois que c'est ça pour moi. Donc c'est pas simple aujourd'hui pour moi, mais c'est clair. C'est clair parce qu'il y a d'un côté une pseudo-légalité et de l'autre côté la légitimité de ce que les gens ont au fond du cœur. Moi, je voulais dire ça. Oh.
La Confédération paysanne du Lot-et-Garonne était présente par l'intermédiaire de son porte-parole, Christian Crouzet. Christian, bonjour, tu es porte-parole de la Confédération paysanne du 47.
Du Lot-et-Garonne, voilà, tout à fait.
Alors, quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la ZAD?
Il est évident qu'il faut protéger ces terres agricoles. On est dans des terres alluviales, haute valeur agronomique, vallée de Garonne, irrigable, donc un potentiel agricole énorme. On a souvent des difficultés à trouver des terres et là, c'est des terres qui échappent au développement agricole, qui sont réservées, qui sont récupérées par des projets industriels et financiers, puisque c'est du placement. Quoi. On est dans des projets hors sol et nous, le sol, ça nous intéresse. Il faut le protéger et laisser de l'avenir aux agriculteurs, aux jeunes qui veulent s'installer. Alors il est évident que nous on veut arrêter le projet. Ces terres sont récupérées, donc elles peuvent devenir une réserve foncière pour le futur, donc rien n'est perdu. Il suffit d'une volonté politique et de retourner le projet à vocation agricole et pourquoi pas des projets alternatifs, autres artisanat, développement local. Il y a beaucoup de choses à faire en lien avec les gens sur le territoire. Et là je vois qu'il y a une jeunesse qui se mobilise. Je crois qu'il faut leur laisser un avenir. Nous on est responsables agricoles, on s'intéresse effectivement au développement des agriculteurs et l'agriculture vivra parce qu'il y aura des paysans actifs et un renouvellement des actifs. On est une population vieillissante, il va falloir aussi qu'on laisse des terres aux jeunes et ça fait partie de l'engagement de la Confédération paysanne de Lot-et-Garonne sur cette résistance indispensable.
Merci. Alors étaient présents plusieurs militants d'Alternatives Libertaires. Alors Alternatives Libertaires, c'est une organisation anarchiste française, principalement anarcho-syndicaliste et anarcho-communiste. Et nous leur avons donné la parole pour connaître les raisons de leur présence et en connaître un peu plus sur leur mouvement. Jean-Luc, bonjour. Tu fais partie d'Alternatives Libertaires et tu es présent aujourd'hui sur la ZAD à côté d'Agen.
C'est tout à fait ça. oui, non, mais comment dire, on est venu à 7 d'Alternatives Libertaires du Lot-et-Garonne parce que pour au moins trois raisons. La première, c'est que bon, je ne vais pas faire je vais pas m'étendre sur la question de la crise climatique qui monte, de la crise écologique qui monte, mais à l'évidence, il est urgent de commencer à construire une rupture avec la société productiviste et avec la société d'exploitation qui est complètement liée. La deuxième, c'est qu'effectivement, on est aussi conscient que 600 hectares de terres agricoles qui seront artificialisées, c'est-à-dire bétonnées, ça ne va absolument pas dans le bon sens. Et dernièrement, je pense qu'effectivement, parler de ZAD, c'est déjà se positionner dans une certaine dynamique et que nous pensons qu'effectivement, cette dynamique est porteuse à la fois d'une certaine forme de radicalité dans le positionnement face à l'État capitaliste et aussi, je dirais, d'une prise en main par les personnes elles-mêmes de leur futur.
Alors, je t'ai entendu parler dans la pré-réunion de convergence des luttes, de cristallisation des alternatives. Je trouvais ça intéressant.
Bien, alors, pour faire très simple, nous sommes souvent des syndicalistes alternatives libertaires. Donc, quelque part, face aux zadistes qui sont souvent complètement coupés par exemple, de ce qu'est le syndicalisme, peut-être qu'on a quelque chose de spécifique à apporter. En particulier, nous pensons que il y a plusieurs écueils à éviter pour une ZAD. Le premier, c'est de se couper complètement de la population. Le deuxième, c'est de considérer que un positionnement, une stratégie à elle seule répond à la question de la construction d'une autre société face au capitalisme. Et donc, on espère que notre présence ici, au-delà du petit renforcement qu'on peut apporter, on espère que notre présence va permettre effectivement de participer au dépassement de ces écueils possibles. Alors comment ça ? Eh bien, on pense qu'effectivement les liens qu'on peut avoir en tant que syndicaliste avec les luttes qui se développent, y compris pour l'emploi dans le Lot-et-Garonne, permettra de faire de ce lieu un lieu symbolique et de cristallisation de toutes les résistances et de toutes les contestations de l'ordre établi au sein du département. Voilà, c'est le sens un petit peu de ce que je disais tout à l'heure en termes de convergence des luttes. Et on pense en plus, d'un point de vue général, que si chaque lutte s'isole de son côté, elle a toutes les chances de se voir vaincue à court ou moyen terme. Et que seule la possibilité de faire converger des choses qui paraissent y compris incompatibles aujourd'hui est susceptible de porter justement cette remise en cause globale du capitalisme que nous voulons défendre. En particulier, la défense de l'emploi et la défense de la nature sont des choses qui peuvent paraître antagonistes. Dans la réalité, Bon, il faudrait quand même quelques développements pour y arriver, mais nous, nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de concilier la défense de l'emploi à travers des reconversions. Évidemment, on ne va pas défendre l'emploi dans l'absolu, on va défendre le droit à l'emploi des salariés qui sont menacés de licenciement. Parce qu'on ne construira pas une société démocratique sans la participation du plus grand nombre, sans la participation des salariés, et on ne construira pas une société, une telle société, si elle ne part pas aussi des besoins et des aspirations des gens, et en particulier la majorité de la population que sont les salariés. Donc pour nous, il est fondamental aujourd'hui de trouver le chemin de cette convergence entre la défense de l'environnement, de la nature, de je ne sais pas comment on doit dire les choses, et la défense des personnes dans leur droit à la survie dans cette société. Et en général, ça passe par l'emploi. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Mais ça veut dire qu'effectivement, si on imaginait le succès de nos propositions en termes de convergence des luttes, évidemment, si des salariés qui se battent, par exemple, à Metal Temple pour le maintien de leur emploi, s'ils venaient ici débattre avec les zadistes, ça changerait probablement leur positionnement sur leur stratégie de quel emploi ils défendent, comme ça changerait probablement, du point de vue des zadistes, je dirais, leur positionnement sur le fait qu'il faut effectivement être présent auprès du plus grand nombre pour défendre leurs aspirations à court terme.
Et alors, un petit mot quand même sur Alternative Libertaire, parce que beaucoup de gens, au moment où les gens se détournent un petit peu du syndicalisme, beaucoup de gens ne connaissent pas Alternative Libertaire. Alors, je trouve ça particulièrement... Alors, rapidement, hein, pas en une heure, mais est-ce que tu peux nous parler d'Alternative Libertaire ? Et peut-être des liens aussi avec la CND pour que les gens puissent bien l'identifier.
Alors, bon, commençons très rapidement par... ce qu'est Alternative Libertaire. Nous sommes une organisation, nous nous revendiquons de ce qu'on appelle le communisme libertaire. C'est-à-dire, nous sommes à la fois communistes au sens où nous exigeons que l'outil de travail soit la propriété de ceux qui le travaillent, et nous sommes libertaires au sens où nous pensons que la société doit avoir pour finalité l'épanouissement des personnes. Mais nous savons aussi que l'épanouissement des personnes n'a pas de sens en dehors du collectif humain. Voilà, c'est pour faire très simple. Nous sommes une organisation politique au sens où nous sommes porteurs d'un projet de société communiste libertaire fondé sur l'égalité économique de tous les producteurs, sur la démocratie directe, sur le fédéralisme et sur une solidarité internationale. Nous sommes... porteur d'une stratégie qui est celle d'être présent, d'être porteur de ce projet de société et présent auprès du plus grand nombre. Nous ne sommes pas pour que les révolutionnaires s'isolent de la grande majorité de la population et du prolétariat et des classes sociales dominées. Nous sommes pour que les révolutionnaires soient comme des poissons dans l'eau au sein du mouvement social. Mais tout en étant porteur de ce projet de société. Voilà, pour faire très très simple, c'est une organisation...
On peut dire très proche, quand je parlais de CNT tout à l'heure, je pensais à l'Espagne 36 et de ce qu'est la CNT aujourd'hui en France.
Alors, du point de vue du projet de société, probablement qu'on est très proche. Du point de vue de l'organisation, nous ne nous situons pas sur les mêmes bases. La CNT se veut un syndicat, c'est-à-dire, et il y a des militants d'Alternative Libertaire qui sont à la CNT, des militants qui sont à Sud, des militants qui sont à la CGT. Bon, c'est pratiquement
tu viens de citer les trois seuls syndicats qui méritent encore de porter ce nom.
Probablement. Bon, il y a aussi d'autres choses qui peuvent... On peut se poser la question d'être à la FSU, par exemple, dans l'éducation nationale. Mais bon, en dehors de ça, donc nos militants sont dans différents syndicats. Ça correspond à la fois à des choix personnels et à la fois à des réalités professionnelles dans lesquelles ils travaillent. Et deuxièmement, nous regroupons sur la base d'un projet politique, alors que nous pensons qu'un syndicat doit être... la forme de regroupement d'un syndicat, c'est la classe ouvrière pour un syndicat, enfin les travailleurs pour un syndicat de travailleurs. Donc il nous semble à nous que le syndicat est plus porteur, entre guillemets, de l'unité de la classe ouvrière, de l'unité du prolétariat, et que l'organisation politique est, elle, porteuse de façon transversale d'un projet de société. Ça ne veut pas dire que le syndicat n'a pas de projet politique, ça veut dire qu'on s'organise pas de la même façon. C'est pour ça que, effectivement, entre la CNT et Alternative Libertaire, on ne s'organise pas de la même façon. On a vu par exemple à la manifestation de Lyon contre le Front National qui a été assez compliquée il y a quelques jours, la CNT et Alternative Libertaire se retrouvaient ensemble. Voilà. Mais je sais pas, en quelques minutes, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin.
Ouais, non, voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on est avec vous et on va vous suivre.
Très bien.
Merci.
Voilà, vos médias libres étaient présents une fois de plus sur place avec l'objectif d'être vos yeux et vos oreilles, enfin bref, de faire notre boulot de journaliste citoyen. Alors il s'est passé quelques jours entre ce 13 décembre et la mise en ligne de ce reportage, puisque nous sommes aujourd'hui le 28 décembre, qu'il s'est passé pas mal de choses. Je vous engage, si cette information vous intéresse, à suivre l'évolution, notamment sur le site du Lot en Action, où nous mettons régulièrement des mises à jour. Un appel a été lancé à des besoins, notamment au niveau agricole, en matière de compétences agricoles, d'agroforesterie, permaculture, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette nouvelle ZAD de Sainte-Colombe en Bruyois, qui risque de faire du bruit parce qu'on est entre le Testé et Notre-Dame-des-Landes, entre Bordeaux et Toulouse. Que nous sommes sur des terres privées et encore qu'ils le sont pendant un petit moment, puisque tant que les expropriations ne sont pas prononcées, les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir, et qu'on est sur une base symbolique forte, puisque on est sur des terres agricoles qui vont être mangées pour des projets qui sont vraiment inutiles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et aller sur le site du Lot en Action. À très bientôt.